Vous écoutez
RMC.
8h sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le pétrole qui s'envole, les bourses qui plongent en Asie, l'Iran qui promet une riposte. Voilà l'effet du discours très attendu de Donald Trump cette nuit aux États-Unis. Il a dit que la guerre était presque terminée, mais que les frappes contre l'Iran allaient continuer. On va largement y revenir. On reviendra aussi sur cette information RMC qu'on vous dévoile ce matin sur les dysfonctionnements qui perdurent dans les EHPAD, 4 ans pourtant après le scandale Orpea. Et aussi sur la mort du livreur Cédric Chouviat à Paris, c'était il y a 6 ans. Sa famille, ce matin sur RMC, confirme qu'elle veut engager la responsabilité de l'État.
Il voulait apparemment rassurer. En fait, les marchés ont plongé cette nuit après le discours de Donald Trump.
Oui, les places boursières ont toutes viré dans le rouge. L'Iran promet de riposter. Les cours du pétrole sont repartis à la hausse. Pas rassuré donc par ce qu'a dit le président américain dans son discours à la nation sur la guerre au Proche et Moyen-Orient qui était très attendu. En fait, vous l'avez écouté pour RMC, Alfred Orange cette nuit, il n'a pas fait d'annonce fracassante et la guerre continue.
Oui, ni fin de la guerre, ni envoi de troupes au sol en Iran. Le président américain est plutôt resté dans le rang, mais pressé par la hausse du pétrole et par l'impopularité grandissante de la guerre dans l'opinion publique américaine, Donald Trump a de nouveau promis un dénouement rapide du conflit.
Grâce à nos avancées, je peux dire qu'on est vraiment tout près d'accomplir nos objectifs militaires en Iran. On va les frapper très très durement pendant encore 2 ou 3 semaines pour les ramener à l'âge de pierre. C'est de là où ils viennent.
Une allocution qui a surtout servi à rassurer les Américains en expliquant notamment que le blocage du détroit d'Ormuz n'a pas de conséquences sur l'approvisionnement énergétique des États-Unis. Mais Donald Trump s'est quand même permis une pique envers tous ces pays dépendants du pétrole sortant de ce détroit. Le président américain les prie une fois encore d'aller, je cite, s'occuper d'Ormuz pour le débloquer.
Bon, et finalement, ce qu'on retient, c'est que Donald Trump a commencé son allocution cette nuit par quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre, en félicitant les 4 astronautes de la NASA qui se sont envolés cette nuit pour la Lune.
3, 2, 1, booster ignition.
Voilà, c'était parti. C'était vers 12h30, à bord de la fusée Artemis. Ils ont décollé pour une mission de 10 jours. C'est un événement, ça faisait 54 ans que la NASA n'avait pas lancé de mission vers la Lune. Alors pour revenir sur les conséquences de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, ce matin, les prix continuent de s'envoler à la pompe. Chez nous en France, le sans-plomb 95 atteint le seuil des 2 euros, selon le site carbu.com. Et le prix du gazole utilisé par les pêcheurs a carrément doublé en l'espace d'un mois. Certains ne sortent même plus leur bateau. Rachel Sadodine, vous avez interrogé les pêcheurs de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée pour RMC. Ils vous disent qu'on va peut-être bien manquer de poissons. Bientôt, expliquez-nous pourquoi.
Moins de bateaux en mer, cela veut dire moins d'arrivées de poissons dans les bacs des criées. Notamment à Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche français produit de moins en moins. Émeric Chan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs du Boulonnais.
Il y a clairement une baisse de l'approvisionnement, de l'ordre de 20 à 25%. Et les cours ont tendance à augmenter et le niveau d'augmentation est dans les mêmes proportions. Les dos, les filets de gros poissons blancs, dos de cabillaud, filets de cabillaud, on est plutôt sur des tarifs qui sont élevés.
Plus bas, à la Turballe, en Loire-Atlantique, le prix du merlu a augmenté de 30% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le nombre de tonnes débarquées a été divisé par 3 par rapport à la même période l'an dernier. Des baisses d'approvisionnement qui ont contraint hier soir la criée méditerranéenne de Sète à fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Situation particulièrement tendue dans les ports dont le plus gros de la flottille est composé de chalutiers circulant en haute mer. Ces navires massifs consomment plus de carburant et subissent donc de plein fouet la hausse des prix. D'autres régions subsistent grâce à la pêche à la ligne, en casier, au filet, pratiquée sur de plus petits bateaux moins gourmands en gazole marin.
Alors combien vont coûter les billets d'avion là pour les vacances qui arrivent, celles de printemps et aussi évidemment celles d'été? Les compagnies aériennes chinoises annoncent ce matin qu'elles vont appliquer désormais une surcharge carburant sur les vols intérieurs. Les brésiliennes, les compagnies prédisent déjà des conséquences graves. Il y a un géant du secteur, géant brésilien, qui a déjà annoncé une flambée de plus de 50% pour le kérosène au mois d'avril.
Sûr que tout le monde n'a pas la chance de prendre l'avion pour partir en vacances, mais ceux qui n'avaient pas encore réservé en sont pour leurs frais là ce matin. Il est 8h04 sur RMC. On vous révèle ce matin que rien n'a changé dans les EHPAD depuis le scandale de l'affaire Orpea il y a 4 ans.
Oui, Solène Leroux, c'est vous qui nous révélez cette information depuis ce matin sur RMC. Les dysfonctionnements, les maltraitances sur les personnes âgées qui continuent donc avec une centaine de saisines auprès de la Défenseur des droits l'année dernière pour des cas donc de maltraitance en EHPAD.
Et dans ces plaintes, on retrouve surtout des maltraitances du quotidien, pas assez de douches, des repas mixés pour qu'ils soient mangés plus vite, et même des résidents abrutis avec des médicaments pour qu'ils soient plus faciles à gérer. C'est déjà inquiétant en soi, mais on découvre aussi ce chiffre. 7% de ces saisines n'aboutissent pas par peur des représailles. Laurent se souvient que sa mère la ressentait.
Elle était comme une petite fille qu'on allait gronder, en fait. Ou comme un enfant qui revient de l'école, qui a subi une pression de la part des camarades ou de la part de l'enseignant, mais qui a besoin de le dire, mais qui ne veut surtout pas qu'on aille se plaindre de peur des représailles.
Sa maman est décédée il y a 6 mois par manque de soins, selon elle, conséquence directe du fait d'avoir parlé. Ce n'est pas toujours facile de dénoncer, alors voici quelques clés si vous reconnaissez. Commencez par alerter l'EHPAD via la direction et les conseils de la vie sociale. Vous pouvez aussi compter sur des associations comme Phare. Et puis pensez à la défenseure des droits et au 3133, le numéro national contre les maltraitances. Et évidemment, si vous faites face à des représailles, il faut porter plainte.
C'était sur RMC un petit peu plus tôt ce matin, la colère de la famille de Cédric Chouvia. Souvenez-vous de ce livreur qui était mort après un contrôle de police à Paris en 2020, plaqué au sol, étranglé. Il avait pourtant répété « j'étouffe » avant de faire un malaise et de mourir donc 48 heures après. 6 ans après cette affaire, sa famille veut engager la responsabilité de l'État car il y a eu usage disproportionné de la force, selon la défenseure des droits. Et maître Ariel Halimi, avocat de la famille Chouvia, ce matin donc sur RMC.
Il met en cause de manière sévère la défenseure des droits, le ministre de l'Intérieur, enfin tous les ministres de l'Intérieur successifs, en disant une chose extrêmement importante, c'est qu'ils ont laissé 4 personnes qui ont tué un père de famille continuer à exercer, et en liberté, et sans aucune procédure disciplinaire. Rappelons que Gérald Darmanin, qui est devenu d'ailleurs depuis ministre de la Justice, s'était moqué de Cédric Chouvia. Il avait dit, quand j'entends parler de violence policière, je m'étouffe. Le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de la Justice, sont responsables de l'absence de justice à ce jour et nous réclamons qu'il y ait une audience extrêmement rapidement.
Audience envisagée à l'automne, indique le parquet de Paris. Il y a du nouveau ce matin à propos des Jeux Olympiques d'hiver que la France accueillera en 2030 dans les Alpes. On ne sait toujours pas qui accueillera précisément les épreuves de glace. Ça devait être à Nice, mais le nouveau maire, Éric Ciotti, est réticent. La nouveauté, Diane Carlotti, c'est que la ville de Lyon propose donc de les récupérer.
Et oui, le maire Grégory Doucet en a fait l'annonce suite à un entretien avec la présidente de la métropole. Ils souhaitent tous deux accueillir à Lyon les sports de glace en 2030. Et pour cela, la ville a des arguments solides. Les patinoires Barabans et Charlemagne, la halle Tony Garnier ou encore d'autres équipements déjà présents dans la métropole. En 2028, la LDLC Arena accueillera même les championnats du monde de hockey comme une potentielle répétition générale. Jusqu'ici, le patinage artistique, le hockey sur glace, le short track et le curling étaient prévus à Nice, tout comme l'installation d'un village olympique et d'un centre des médias. Mais le nouveau maire niçois, Éric Ciotti, s'est positionné contre la transformation temporaire du stade de l'OGC Nice en patinoire et contre la construction d'un nouveau complexe olympique. Depuis, l'édile a tout de même rappelé être extrêmement attaché à accueillir les épreuves de glace dans sa ville. La carte définitive des sites, elle, doit être annoncée fin juin.
Bon, et puis cette question aussi ce matin, la France doit-elle s'inspirer du Brésil ?
Ça vous demandez ?
Non, ça c'est pas brésilien. Le Brésil,
Chico Buarque,
le Brésil qui vient d'adopter une loi pour mettre en place la garde partagée des animaux de compagnie en cas de séparation ou de divorce. C'est très sérieux.
Mais bien sûr que c'est très sérieux.
Le Parlement brésilien a dû légiférer et dit pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu une hausse de litiges en la matière. Il n'y a pas de loi pareille en France, d'où cette question. Est-ce qu'on doit s'en inspirer ?
Comment ça se passe ? Non, mais c'est vrai que c'est bien sûr que c'est une question sérieuse. C'est un membre de la famille.
Moi, je pense qu'il faut s'en inspirer.
En tout cas, il faut.
Ouais.
Faut
qui paye les croquettes, qui garde le chat, quel week-end.
Je me fais engueuler là. Mais non, mais je pourrais faire. J'avais pas cette info. Je viens de le préciser. Je pourrais partir en débat sur ce seul sujet. Mais quand invité, je vais vous libérer.
Comme s'il y avait pas
merci beaucoup. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. Vous l'avez entendu, il est là. C'est Emmanuel de Chypre pour l'économie. Il est 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Alors Emmanuel, vous ne partagez pas ce matin le pessimisme du directeur de l'Agence internationale de l'énergie, pour qui la guerre en Iran est un choc sans précédent pour l'économie mondiale.
Ah bah il est assez radical hein, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Il dit aujourd'hui, grosso modo, on perd 12 millions de barils de pétrole par jour. C'est plus que lors des deux crises pétrolières de 73 et 79 réunies. Des pertes pires aussi qu'en 2022 lors de l'interruption des flux de gaz russes. Ces crises avaient entraîné une récession mondiale. Donc, comprenez, le choc énergétique que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que les récessions de 73, 79 et 2022 réunies. Or, ce diagnostic, notamment pour nous, pays européens, et pour nous, la France, est beaucoup trop alarmiste pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes beaucoup moins dépendants du pétrole qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, dans 1 euro de PIB, il y a 3 ou 4 fois moins de pétrole qu'en 1972. C'est pareil en Chine, c'est pareil aux États-Unis. Songez qu'aux États-Unis, on consomme la même quantité de pétrole qu'il y a 40 ans, avec un PIB 4 fois plus élevé qu'à l'époque. Et puis, les effets des chocs pétroliers, ils avaient été très largement amplifiés à l'époque par les erreurs de politique économique. Les banques centrales, les gouvernements avaient laissé filer l'inflation, les salaires, on avait créé du chômage massivement. Rien de tel ne se produira aujourd'hui, les banques centrales veillent.
Bon, rassurant, est-ce que la France dépend tant que ça du Moyen-Orient pour son pétrole et son gaz?
Mais en plus, il y a cette crainte que finalement, on ne puisse plus être approvisionné parce qu'on est très dépendant du Moyen-Orient. Mais pas du tout. Notre pétrole, il vient à 38% d'Afrique, d'Algérie, de Libye, du Nigeria, à 22% des États-Unis, 12% du Kazakhstan, 12% de la mer du Nord, c'est moins de 10% de notre pétrole qui vient du Moyen-Orient. Et alors le gaz, c'est encore pire, hein. 40% vient de Norvège, 20% des États-Unis, il y a que 3% du gaz qui vient du Qatar. Donc on n'est pas si dépendant que ça non plus du Moyen-Orient. En fait, le patron
faut pas confondre les cours et les stocks, quoi.
Voilà, exactement. En fait, le patron de l'AIE, c'est très clair, il s'adresse surtout au reste du monde et notamment à l'Asie. L'Asie qui dans les années 70, c'était un pays qui n'était pas industrialisé, qui consommait très peu de pétrole, qui a pas connu les chocs de l'époque. Donc oui, pour l'Asie, effectivement, qui aujourd'hui consomme la moitié du pétrole mondial et assure la moitié de la production industrielle mondiale, c'est le premier vrai grand choc énergétique. Regardez les mesures radicales qui sont prises dans ces pays.
Et ces deux dont on parle, les pays d'Asie en l'occurrence, pour qui ce choc est dur. Comme tous les matins, les prix de l'énergie avec vous. Alors simplement, Emmanuel, cette nuit, il y a Donald Trump qui parlait. Apparemment, il n'a pas tellement rassuré après sa prise de parole.
Non, il n'a pas rassuré. La preuve, le prix du pétrole a repris quasiment 7 dollars dans la nuit. On est à 108 dollars et 40 cents aujourd'hui, le baril de Brent. On était à un peu moins de 102 hier. Alors, ça va beaucoup mieux, par contre, sur les prix du gaz. Hein, le gaz, on est à 47,3 euros le mégawatt-heure. On était à 54 hier et on était à... Le pic, c'était 61. Et puis, sur les carburants, y a toujours un décalage. Sur le gazole, on est à presque 2,25 toujours, ça bouge pas beaucoup. Et le sans-plomb 95, ça monte même un petit peu de 3 centimes par rapport à il y a 3 jours.
On s'installe tranquillement au-dessus des 2 euros pour les
Absolument,
deux.
Absolument, hein.
Tranquillement
pour les deux.
Comme un palier. Merci beaucoup Emmanuel Lechypre. Il est 8h12 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face ce matin, c'est l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, après la prise de parole cette nuit de Donald Trump, la guerre en Iran qui se poursuit. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50, ça vous le savez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, donc aujourd'hui aussi.
Ben oui.
Bonjour Arnaud
inclus.
De manche.
Tous les jours inclus, on a dit. Bonjour à tous, bonjour les amis. Mathieu, bonjour, ou plutôt. Hanyeong Haseyo. Voilà, ça veut dire bonjour en. Coréen du Sud, Coréen du Sud, arrêtez presque. Car Emmanuel Macron est en Corée du Sud aujourd'hui. Alors il s'adressera aux Coréens en leur disant « Chers Coréens, j'aimerais citer quelques mots de votre plus grand poète. Najenun Tasarun Inganjeonging Yeoja, Opan Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Whoop, whoop. Hey, sexy lady. Whoop. » Alors dans l'agenda du président,
je me demandais jusqu'où il allait dans la chanson.
Je peux faire toute la chronique comme ça, mais j'ai peur de rien. Sauf que dans l'agenda du président, il y a plein de choses, notamment une rencontre avec les représentants de la K-pop, c'est la pop sud-coréenne. Alors il y aura pas la pop nord-coréenne, hein. C'est un genre un peu différent, si vous voulez, c'est moins coloré, c'est plus martial. Tiens, on va faire un petit jeu, pop de Corée du Nord ou pop de Corée du Sud. Attention, premier extrait.
Corée du Sud.
Corée du Sud. Ouais. Corée du Sud. Attention, deuxième extrait.
C'est subtil.
La différence n'est pas évidente, ça s'entend à peine, mais vous avez trouvé, c'est Corée du Nord. Donc voilà, donc vous entendez, c'est pas exactement des petites meufs qui embrassent des laboubou. La K-pop, ce sont des jeunes chanteurs et chanteuses interchangeables, un peu comme les premiers ministres sous Macron, mais en moins moche. Voilà. Le corps nu, tu le mets pas dans les BTS, quoi. Il n'y a pas des Coréennes qui sont là. Donc Macron va écouter de la K-pop toute l'après-midi. Donc c'est ça. Merci. C'est affreux. Et alors vous vous en servez pour disperser les manifestations? Non, même pas. Mais c'est vraiment de la musique parce que nous on a Michel Sardou. Michel Sardou, c'est autre chose. Faudrait qu'on vous envoie de la French pop. Vous connaissez ça? Ça, c'est français. C'est les musclés. Voilà.
Blackpink featuring les musclés.
Pareil, on achète.
Truc, hein.
Et Gilbert Montagnier, vous connaissez Gilbert Montagnier? Faudrait qu'on vous l'envoie. Faudrait qu'on vous envoie Patrick Bruel. Ah non, ça, on va avoir des emmerdes si on fait ça.
Ça s'arrête. Donald Trump s'est exprimé cette nuit à la télévision américaine.
Ouais, vous avez vu, il a vanné Macron. Vous avez vu ça? Il a dit, sa femme le traite très mal, il se remet à peine de la droite qu'il a reçue dans la mâchoire. Oui, bah voilà, contrairement à Trump, Macron, il se fait encore toucher par sa femme.
Oh,
boum. Allez.
Ah ouais, ça clash.
Ah ouais.
On va m'accuser d'être macroniste à fond maintenant. Alors, Trump nous a offert un bref résumé de son succès en Iran. Il a dit, on va gagner, c'est bientôt fini, on a juste besoin de l'OTAN pour nous aider à gagner, même si on va gagner de toute façon, parce qu'ils veulent pas nous aider, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'eux parce qu'on a déjà gagné. Alors, dans 2 mois, ce sera fini. Je négocie un cessez-le-feu, mais je vais tout détruire et envoyer des troupes au sol, même si on a déjà gagné, parce que l'Iran a plus l'arme nucléaire, et on va les forcer à accepter un deal pour plus avoir l'arme nucléaire qu'ils ont déjà plus, même si on a rompu le deal qui existait. C'est très clair.
En tout cas, c'est très bien résumé.
Mais c'est parfaitement résumé.
On met les feuilles, là.
Non, c'est vraiment le fil. J'ai tiré sur le fil d'une pensée construite.
Ça vous arrive.
Le Pakistan s'est proposé pour jouer le rôle de négociateur entre l'Iran et les États-Unis. Alors, le Pakistan, c'est quand même étonnant. Moi, j'aurais plutôt pensé à la Suisse, tu vois, en pays neutre. En plus, c'est à mi-chemin entre Téhéran et Washington. C'était pratique. Tu mettais Trump et Khamenei au bord du lac Léman à manger une fondue. Et le premier qui fait tomber son crouton, il a perdu la guerre.
Ah ouais.
Et voilà. Après, pourquoi pas le Pakistan? En plus, ça peut marcher avec Trump parce que la capitale du Pakistan, c'est Islamabad. Donc en anglais, l'islam, c'est pas cool. Donc Trump, il va arriver. Oh, je suis d'accord avec vous. Islam is bad. Oh, very bad. Islamabad. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. Parce que Islamabad, c'est comme si le Vatican s'appelait Cato Nul, quoi. C'est très bizarre. Alors, tant qu'on parle de Trump, il a demandé à apparaître sur le billet du dollar. Alors, pas lui, sa signature, juste pas sa tête, parce que même lui, il sait. De toute façon, c'est sa marotte de tout mettre à son nom. Il a demandé la même chose pour l'aéroport de Palm Beach, en Floride. Alors, c'est fréquent, ça, les aéroports qui ont des noms de présidents. On a Roissy Charles de Gaulle, New York JFK, tout ça. Je comprends pas vraiment pourquoi. Autant, tu as une piscine Lormano-Dou.
Ouais,
oui,
ouais,
elle a passé sa carrière à nager, mais des aéroports avec des noms de présidents, c'est genre, ils ont passé leur carrière à voler. Il y a un truc pas clair, je trouve. Il y a un double sens. À la limite, l'aéroport Snoop Dogg, tu vois. Parce que tu décolles vraiment. Ce serait stylé. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir à l'aéroport de Los Angeles, Snoop Dogg. Snoop Dogg! Le temps est nuageux et nous allons nous poser en planant. Je vous rappelle qu'il est autorisé, voire encouragé, de fumer dans les toilettes. Allez, bon séjour à tous.
Sans transition, oui, on est aux États-Unis, on y reste. Xavier Dupont de Ligonnès, recherché au Texas, il aurait été aperçu avec un labrador noir.
Ouais, il n'arrivait pas à assumer une famille, il prend un chien, c'est Brigitte Bardot. Il aurait déjà été vu en 2020 dans le comté, et là ils ont relancé les recherches. On a entendu. On a failli retrouver Xavier Dupont de Ligonnès avant Raphaël Arnaud, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Moi, je pense qu'il se cache toujours en France, Dupont de Ligonnès. Je crois qu'il est dans les bureaux des adhésions de Place Publique de Raphaël Glucksmann. C'est la bonne plan qui a jamais personne. Après, je comprends qu'il soit parti au Texas parce que nous, on le cherche depuis 15 ans. Ça nous paraît fou, un gars qui a tiré sur toute sa famille. Alors qu'au Texas, c'est un dimanche comme un autre, tu vois. Il y a une photo sur laquelle on l'aperçoit. Il a un chapeau de cow-boy. Il vit sa meilleure vie. En fait, il avait juste besoin d'un pays qui autorise le port d'armes. Il a tiré sur 4 personnes avec succès. C'est même grâce à ça qu'ils lui ont filé une green card. Voire même un job dans la police locale. Fallait remplacer Chuck Norris dans Walker Texas Ranger. C'est lui, je m'attendais pas à lui comme candidat. C'est lui. Et à demain.
Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr. Vous restez bien avec nous dans un instant sur RMC et BFM TV. L'invité de Marie Chantresse, c'est Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. 8h21
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
L'armée iranienne menace les États-Unis d'attaques écrasantes après le discours cette nuit de Donald Trump. Le président américain promet de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Pendant une vingtaine de minutes, il a assuré qu'il frapperait le pays extrêmement durement pendant encore 2 ou 3 semaines. Et concernant le détroit d'Ormuz, il va s'ouvrir naturellement, dit Donald Trump. Pas d'annonce fracassante, mais cela suffit à dérégler une nouvelle fois les marchés et notamment le cours du pétrole. Les compagnies aériennes chinoises annoncent qu'elles vont appliquer une surcharge carburant sur les vols intérieurs. Le gouvernement lui promet d'utiliser certaines recettes fiscales supplémentaires sur le carburant pour financer l'électrification de l'économie. Les aides sur le prix de l'essence pourraient aussi bientôt s'étendre au métier du soin, selon la porte-parole du gouvernement. Plus de peur que de mal à Lyon, où environ 150 élèves ont dû évacuer de leur collège, lycée et de leur internat à cause d'un incendie. Hier soir, ça s'est passé dans le quartier de la Croix-Rousse, au Chartreux. Un surveillant a été hospitalisé à cause des fumées toxiques. L'origine du feu n'est pas encore connue. Décollage réussi pour Artemis, l'équipage de la NASA en chemin vers la Lune. Ce sera le premier à en faire le tour depuis plus de 50 ans. L'objectif pour 2028, c'est une présence humaine sur la Lune. Et puis les épreuves de patinage se dérouleront-elles à Lyon pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2030? C'est la proposition du maire de la ville, Grégory Doucet, alors que le nouveau maire de Nice, Éric Ciotti, remet en question le projet de les accueillir dans sa ville. C'est pourtant ce qui est prévu. Un temps pluvieux encore ce matin sur la moitié ouest, mais des éclaircies arriveront en journée. Plein soleil sur la moitié est avec encore pas mal de vent près de la Méditerranée. Les températures sont en hausse, elles seront en fin de saison cet après-midi. 12 à Lille, Rouen et Aurillac, 14 à Rennes, Bourges, Nancy et Biarritz, 15 à Paris et Lyon, 16, 17 à Marseille, Nice et Bastia, jusqu'à 20 degrés à Montpellier.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres. Merci Clara Gabillet. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey qui reçoit Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est quasiment 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Joshua Zarka.
Bonjour.
Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France, je le disais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre parole, vos mots comptent, surtout après l'allocution, je le disais, très attendue du président américain. On va parler de ses répercussions immédiates. On l'a vu, ses salves de missiles à nouveau tirées sur Israël, ses menaces très fortes iraniennes. Une prise de parole du président américain sur laquelle beaucoup d'experts ces dernières heures avaient spéculé, mais finalement, assez peu de choses nouvelles. Après des rumeurs d'arrêt de la guerre ou d'autres annonces majeures, il n'en a rien été. Pas de sortie du conflit rapide, mais un calendrier frappé sans relâche l'Iran pendant encore 2 à 3 semaines. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin ?
C'est pas une question de soulager, vous savez. Je le répète assez régulièrement. Cette coordination qu'il y a entre nos deux pays, entre nos deux dirigeants et entre nos deux armées est une coordination qui est assez totale. Je parlais ici sur votre plateau il y a quelques semaines du fait que nous avions, quelques jours, que nous avions besoin de quelques semaines encore. Mm-hmm. Et c'est exactement finalement ce que dit le président Trump.
C'est le même calendrier. Vous partagez ce même calendrier.
Il y a un calendrier. Alors, il y a des fois des tendances à chercher, que ce soit sur des médias européens ou d'autres, à changer les différences, à chercher une désaccord entre nos dirigeants. Ce n'est pas le cas. Nous sommes une armée, il y a une décision qui est prise par les deux dirigeants, par les deux chefs des armées, et nous sommes entièrement coordonnés. Et comme je le disais auparavant, nous avons besoin encore de quelques semaines, un petit nombre de semaines pour en finir avec toutes les cibles militaires de cette guerre.
Et donc vous dites ce matin, fin de la guerre, comme le président américain, dans 2-3 semaines?
Je dis que la fin des cibles militaires et nucléaire iranienne dans 2 à 3 semaines.
Et on va y revenir dans le détail. Pardonnez-moi juste ce matin, encore une fois, vous dites certains médias occidentaux, européens, américains aussi. Souvent très bien informés. Et vous le dites aussi, il y a une coordination totale. Est-ce que ces dernières heures, à votre connaissance, il y a eu des contacts directs entre le Premier ministre israélien, le président américain ou la Maison-Blanche pour dire finalement un arrêt de la guerre serait une folie et vous ne pouvez pas nous lâcher aujourd'hui?
Je suis incapable de vous dire cela. Les discussions qu'il y a entre le Premier ministre et le Président sont vraiment des discussions quotidiennes. Ils se parlent régulièrement. Je n'ai pas de rapport à ce sujet qui vient de Jérusalem et disant on a parlé à cette heure-ci, etc., etc. Non. Mais vous parliez auparavant, si je peux me permettre, des missiles qui ont été tirés par les Iraniens.
Encore une fois ce matin, dans la banlieue de Tel Aviv.
il faut pas oublier, et c'est important de comprendre, que entre le maquillage et l'interview, 30 missiles ont été tirés du sud du Liban contre le nord de mon pays. Entre le maquillage et l'entrée, 30 missiles par le Hezbollah.
En l'espace donc de 10 minutes.
10 minutes, 10 minutes. Et donc, ça n'arrête pas. Mm. Il faut comprendre, c'est une guerre, et en plus, on va parler du dimanche, j'imagine, c'est une guerre qui, au Liban, nous a complètement été imposée par le Hezbollah. Mm. Alors oui, les Iraniens essayent de continuer à tirer, ils ont tiré hier, c'est la fête de Pâques, qui est une fête...
La fête de Pessah, en
la
effet.
La fête de Pessah, qui est, c'était le Seder, une fête très importante chez les Juifs. Et en venant en chemin, en venant ici, je me suis rappelé de quelque chose, d'une des prières qu'on a dit hier soir, c'est ce qu'on répète à chaque Agada, chaque année, c'est que dans chaque génération, il y a ceux qui essayent de nous détruire. Mmh. Et c'est seulement par intervention divine, et là j'ajouterai aussi de l'IDF, que nous survivons. Et pendant qu'on disions cette phrase chez moi hier soir, pendant le CEDER, des missiles, des dizaines de missiles iraniens tombaient sur mon pays.
Il y a une forme, justement, peut-être, de lassitude de l'opinion publique israélienne.
Non, parce que, vous savez, c'est pas que le régime iranien nous a donné une option, a ouvert une petite porte disant « nous pourrons vivre ensemble ». S'il y avait cette porte qui avait été ouverte, ils sont à 1200 kilomètres de notre pays, nous n'avons aucun problème avec le peuple iranien, bien au contraire. C'est un peuple avec lequel nous sommes très proches. Donc ils sont à 1200 kilomètres, nous n'avons aucun problème avec eux. S'ils avaient décidé de vivre en paix avec nous, il n'y aurait eu jamais de problème. Ils ont dit d'une façon très claire, ils ont répété d'une façon très claire, à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, notre but était de détruire Israël.
La destruction d'Israël. Donc reste une menace existentielle. Exactement. Encore aujourd'hui. Sur le piège de l'escalade quand même, Joshua Zarqa, 2 à 3 semaines supplémentaires, vous nous le redites ce matin, sans doute le but de guerre sera atteint dans ce calendrier-là. Mais néanmoins, ce sont des mots qui sont répétés à peut-être plus grande échelle. Est-ce que finalement c'est une guerre sans fin dans laquelle vous vous êtes embarqué ?
Non.
Vous n'y croyez pas ?
Non, pas du tout. Non, une guerre sans fin serait si, par exemple, nous n'étions pas arrivés à plus de Par exemple, dans les lanceurs, nous sommes, par rapport à ce qu'ils avaient au début de la guerre des 12 jours et aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de tous les lanceurs de missiles qui ont été détruits. Donc nous avançons avec nos cibles militaires. Nous avançons bien...
90%, vous nous le dites ce matin,
par rapport à ce qu'ils avaient avant la guerre des 12 jours.
Et sur leur site de production de missiles
La grande majorité a été complètement détruite, la site de production. Donc on avance au-delà de notre calendrier militaire. Mais c'est vrai que n'oublions pas, c'est un pays qui avait une infrastructure militaire énorme. Donc c'est pas quelque chose qui peut se terminer, surtout quand il n'y a pas d'intervention terrestre, qui peut se terminer en 1 ou 2 semaines.
Certains experts disent que finalement, clamer victoire, parce que c'est ce que aussi dit Donald Trump hier, en disant tout n'est pas atteint, mais finalement tout va dans le bon sens. C'est finalement la signe que cette guerre va continuer et qu'il n'y a pas d'objectif clair. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Je pense qu'il y a une tendance, des fois qui m'étonne, c'est un espèce d'anti-américanisme qu'on voit sur tous les plateaux. Les gens essaient de trouver la faiblesse des États-Unis dans cette guerre. Les États-Unis vont perdre, etc. Que je ne comprends pas, franchement, parce que c'est quand même un pays, je parle des États-Unis, pas d'Israël, qui est allié de la France, qui est à la tête de l'Occident. Et pourtant, certains cherchent à trouver, la faiblesse des États-Unis qui vont perdre contre un régime terrible.
Qui est allié de la France, Joshua Zarqa, quand on voit les déclarations récentes du président américain, même de certains responsables israéliens? On peut en douter quand même.
Non, je pense que je représente Israël et je pense que les déclarations que nous avons faites sont très claires et très responsables et nous n'attaquons jamais personnellement qui que ce soit, certainement pas le président Macron, mais il y a eu des choix qui ont été faits par le gouvernement français ces derniers temps qui pour nous prouvent que la France ne se définit pas comme un ami d'Israël.
Sur la question précise du régime iranien, Donald Trump le dit encore, l'objectif de cette guerre n'a jamais été de changer le régime iranien. Est-ce que ce n'est pas une manière de réécrire un peu l'histoire quand même?
Je pense que nous l'avons dit d'une façon très claire, en tout cas je l'ai dit d'une façon très claire depuis le début de cette guerre. Notre but est d'affaiblir, un des buts de cette guerre pour nous est d'affaiblir ce régime suffisamment pour que les Iraniens puissent prendre le contrôle de leur pays et puissent prendre le contrôle de leur destinée et enfin vivre en paix et sans craindre de sortir dans la rue, et c'est avec les cheveux qui ne sont pas suffisamment couverts, ou sans craindre de chanter dans la rue hommes et femmes ensemble et se faire tuer par des barbus qui n'acceptent pas cela comme concept de liberté.
On en est très loin quand même aujourd'hui, et selon certains renseignements américains, les successeurs, en tout cas ceux qui composent aujourd'hui le régime, seraient peut-être même plus durs que leurs prédécesseurs.
Il y a une grande différence entre les successeurs possibles à leurs prédécesseurs, donc au Khamenei, au guide qui a été éliminé le premier jour de la guerre, et etc.
Et à son fils, donc, désormais.
On ne sait pas dans quel état il est, et si vraiment c'est lui qui dirige les choses. Et le fait que les Iraniens peuvent aujourd'hui peut-être sortir plus librement parce qu'il y a beaucoup moins de gardiens de la révolution dans les rues. Mmh. C'est vrai qu'ils sont très violents, ils sont toujours très violents et ils tuent les Iraniens. Mais il y a un sentiment, je pense qu'il y a un début de sentiment de pouvoir se débarrasser du joug de ce régime terrible.
Vous pensez que ça c'est possible aujourd'hui,
oui.
Encore une fois?
Je pense que oui, parce que vous savez, c'est un peuple qui est un peuple extraordinaire, un peuple millénaire, qui a besoin de cette liberté, qui veut cette liberté et qui fera tout pour la trouver.
J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous nous disiez, ces 10 minutes qui vous ont finalement lié entre le maquillage, c'est l'anecdote, ouais, et ce plateau des dizaines de missiles lancés. Vous parliez là du Hezbollah, mais l'Iran, ouais, aussi a encore, ouais, une fois, juste après le discours terminé, continué à lancer des missiles et à frapper Israël. Notre reporter sur place parlait d'une nouvelle journée de guerre, comme depuis plus d'un mois maintenant en Israël. Je vous parlais de la lassitude de l'opinion publique. Vous dites qu'elle est toujours derrière son armée, toujours derrière son gouvernement.
Mais, oui, bien sûr, parce que c'est pas qu'il y a une option. C'est pas que nous pouvons dire maintenant on ne va pas faire cette guerre, on va s'arrêter.
Il n'y a pas d'autre choix.
Le régime, ce qui reste de ce régime, ce qu'il y avait auparavant et ce qui reste de ce régime ne veut pas de l'existence d'Israël au Moyen-Orient ou en général. Et donc, nous sommes bien obligés de nous débarrasser de cette menace existentielle qui existe contre nous. Alors, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que je vois mes enfants hier, certains de mes enfants sont chez nous, ils ont fait la fête avec nous hier soir, mais deux de mes filles étaient là-bas. Elles nous envoient des photos pendant toute la soirée, elles étaient dans les abris, parce qu'il y avait des missiles qui tombaient continuellement. Et donc, bien sûr, c'est très difficile.
Très difficile, et en même temps, vous, le gouvernement israélien, vous nous le redites encore ce matin, que vos objectifs sont en passe d'être quasiment à 100% remplis, notamment sur la destruction des missiles iraniens. Mais force est de constater de jour en jour qu'ils en ont encore la capacité et qu'ils en ont encore.
Ce qui prouve que, vous savez, c'est un pays très riche qui a investi des milliards, des centaines de milliards de dollars, non pas dans la population, non pas dans la construction d'hôpitaux, non pas dans le bien-être de leur propre population, mais dans des tunnels sous des montagnes énormes pour justement cacher toutes leurs capacités balistiques, etc. Et c'est pour ça que c'est devenu un pays appauvri. Vous savez ce qui s'est passé en janvier, les émeutes de janvier qui ont justement causé la mort de presque 40 000 Iraniens. Elles étaient causées par le fait que justement les Iraniens, le régime iranien, avait investi tout son argent, tout ce qu'il avait, toutes ses finances, dans la construction de ces bases qui sont enterrées.
Et absolument rien dans la population et dans le pouvoir d'achat de sa population. Lassitude de l'opinion, vous me le dites, il n'y a pas d'autre option. Juste une question rapide sur l'état de l'armée israélienne, avec des mots qui ont particulièrement marqué le chef d'état-major, qui le dit, Tsahal, l'armée israélienne donc, est en train de se diriger vers un effondrement interne. Peut-être trop de fronts menés aujourd'hui par l'armée israélienne. Qu'en est-il? Que dites-vous ce matin sur cette réalité?
D'abord, c'était une discussion, c'est un rapport qui n'est pas un rapport officiel, donc c'est difficile pour moi d'en parler. Une discussion qui était au sein du cabinet. Mais il faut dire qu'il y a aujourd'hui une discussion très importante en Israël qui ne parle pas de cette guerre, mais qui parle de la participation de certains publics israéliens à l'effort militaire. C'est vraiment une instruction interne, une discussion interne sur le statut des ultra-orthodoxes, etc. Et je pense que si effectivement le chef d'état-major aurait dit ce qui est dit.
Vous le mettez en doute encore ce matin sur l'état de l'armée israélienne?
Non, sur l'état de l'armée israélienne, oui, je le mets en doute.
Où il manquerait aujourd'hui 15 000 soldats.
Non, mais justement, cette discussion, le fait qu'il manque des soldats, est fait dans le cadre du fait qu'il y a une partie de la population israélienne qui ne participe pas à l'effort militaire à cause du fait qu'ils vont faire des études, etc., etc., des études religieuses. Et c'est ce qui a été dit par le chef d'état-major, si effectivement ça a été dit, parce que encore une fois, je n'ai pas eu de rapport officiel à ce sujet, aurait été dit dans ce cadre, c'est-à-dire il est impossible pour Israël d'accepter qu'il y ait deux genres de population. Il faut comprendre la politique israélienne pour essayer de comprendre ce qui a été dit là.
Monsieur l'ambassadeur.
Je ne dis pas, je clarifie, je ne dis pas que cet effort militaire n'est pas difficile pour la population, n'est pas difficile pour l'armée. C'est une guerre longue, difficile, et ça fait 2 ans et demi que nous sommes en guerre.
2 ans et demi et avec un objectif, vous nous le redites encore ce matin, peut-être de l'arrêter dans 2 à 3 semaines. Une question rapide, majeure aussi quand même, sur la menace nucléaire iranienne. Les stocks d'uranium enrichi restent une question majeure. Selon plusieurs médias américains, la Maison-Blanche aurait envisagé, ou envisagerait encore, de lancer une opération pour aller chercher les stocks d'uranium enrichi dont disposerait encore l'Iran. Une opération extrêmement complexe à mener. Est-ce que vous avez des informations précises ce matin sur le sujet ?
Non. Non, c'est pas le genre de choses dont on parle avec les ambassadeurs israéliens en France. Et si en France, franchement, si j'avais une information, c'est pas une question.
On le comprend effectivement, mais ça fait partie des options. Ça peut faire partie des options américaines. Où certains décrivent une folie d'une mission qui n'aurait jamais été menée d'une telle ampleur depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ça, le fait, je pense qu'une une opération de l'ampleur que nous voyons aujourd'hui n'a pas été non plus menée seulement par une voie aérienne depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins. Le fait que ça n'a pas été mené ne veut pas dire que ça ne peut pas être mené. Ce que préparaient ou ne préparaient pas les armées, n'est pas quelque chose dont je peux parler aujourd'hui sur un plateau.
Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Jarka, une question sur vos relations, Israël, avec notre pays, la France, qui s'est considérablement tendue ces derniers jours. Assimilez-vous Paris à une puissance hostile? Quand on voit les déclarations et quand on entend vos dernières déclarations il y a seulement quelques minutes, comment qualifier cette relation avec la France aujourd'hui?
Vous savez, ça fait 2 ans et demi que nous sommes en guerre. C'est une guerre existentielle pour mon pays. La guerre qui a suivi le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, et la guerre que nous menons aujourd'hui, ce sont vraiment des guerres existentielles. Et quand la France refuse le survol de son territoire, c'est pas qu'on a demandé d'acheter des armements de la France, mais quand la France refuse le survol de son territoire pour permettre aux Américains de donner les munitions.
On parle de certains appareils,
certains appareils qui
transportaient du matériel à destination d'Israël.
Il y a eu un refus. Quand ce refus, qui nous a étonnés, franchement, nous a choqués, est fait d'une façon très claire.
La France s'est étonnée aussi de votre étonnement.
Ouais,
parce que, considérant que ça a toujours été la posture française.
Non, mais ça a peut-être été la posture française. Nous sommes dans une guerre existentielle. Alors, un pays qui se définit comme étant un pays ami, qui sait que nous sommes dans une guerre existentielle, à qui, franchement, la situation a été présentée d'une façon très claire, prend une décision de ne pas permettre le survol du territoire français à des munitions américaines, à des équipements américains pour la guerre contre l'Iran. En plus, ça a été clarifié que c'était seulement contre l'Iran, pas contre le Hezbollah. C'est une décision qui a des conséquences.
Une décision qui a des conséquences, et pour reprendre ma question, est-ce que vous assimilez aujourd'hui Paris à une puissance hostile ?
Ce n'est pas une puissance amicale.
Ce n'est pas une puissance amicale. J'aimerais vous interroger sur les mots d'un certain Eli Barnavi, qui a été votre prédécesseur à l'ambassade d'Israël ici en France, qui le dit, Israël n'a pas d'allié en dehors des États-Unis et de quelques autres pays proches comme la Hongrie d'Orban. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont seulement vos alliés?
Eli Barnavi est quelqu'un qui peut-être... Vous savez, alors je vais dire 2 choses. Avant de répondre à votre question, je vais y répondre. Un ambassadeur qui est connu seulement par être ambassadeur dans un pays, qui se retourne quand on se retourne son pays, c'est comme un général qui retourne ses armes contre son propre pays.
Eli Barnavi se retourne aujourd'hui contre Israël par ce type de déclaration?
Parce que c'est quelqu'un qui, en dehors de la France, n'est pas du tout connu en Israël. S'il faisait ses déclarations en Israël, ce serait totalement légitime. Mais il n'est pas du tout connu. C'est quelqu'un qui n'est personne en Israël. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, la situation entre Israël et nos voisins arabes de la région est une relation non pas amicale, mais d'alliés, plus que celle qu'elle n'a jamais été.
Et vous avez donc d'autres alliés que les États-Unis et la Hongrie d'Orban.
Bien sûr, l'un, d'autres, il est à travers le monde. Mais bien sûr.
Question rapide, question de fin, Joshua Zarka, sur ces incidents avec la FINUL dans le sud du Liban. Vos intentions d'ailleurs dans le sud du pays, volonté de s'installer à long terme ou pas, des déclarations peut-être qui ont semé le trouble. Mais est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé avec des soldats français? Vous disiez que peut-être des conclusions seraient à tirer. Est-ce que vous avez de nouvelles informations à nous donner
encore,
ce matin?
Pas encore, nous enquêtons, parce que franchement, la première fois que nous avons entendu qu'il y a eu ces incidents, c'est quand j'ai été, quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait eu ces incidents. Nous enquêtons, c'est inacceptable. Si effectivement ça s'est passé comme ça s'est passé, je sais pas que je mets en doute, mais comme nous savons pas exactement encore qui étaient les unités qui ont fait ce qu'ils ont fait.
Et si des soldats israéliens étaient en cause,
des conclusions seraient tirées.
Merci infiniment, Joshua Zarka, d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey, c'était le face-à-face sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup arrive, il est en train de s'installer. C'est Face à Canteloup sur RMC en direct, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, il est 8h51. Ce matin, l'invité de Marie Chantrey, c'était Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël. Donald Trump s'est exprimé cette nuit au sujet de la guerre en Iran. Bonjour Monsieur Trump.
Elle n'est pas là, Pauline.
Non.
Pourquoi elle n'est pas là, Pauline? Bonjour, Mathieu Belliard. Je te connais, toi. Excuse-moi pour ce matin que je t'ai mis la main aux fesses dans l'ascenseur. Oui, parce que quand il enlève le chouchou de ses cheveux, Mathieu Belliard, il a les cheveux qui partent en pétard. J'ai cru que c'était Diana Ross. Où ils vont qu'à ça? Mathieu, la double nationalité. Dis-le aux gens que t'es américain.
Américain,
good guy. Good. Pourquoi tu es planqué à la radio alors que tu devais te battre dans le détroit d'Hormuz avec nous? Alors tu sais quoi? Tu finis ta matinale sur ta radio de wokiste. Tu rases ce chignon et tu pars avec moi sur le Abraham Lincoln. Ou alors on va à la go faire un golf.
Ouais.
Comme t'es puni, tu feras mon caddie. J'aurai Diana Ross comme caddie.
Allez, on verra. En attendant, vous pourriez nous détailler votre stratégie.
Oui, t'as du mal avec le mot stratégie.
Stratégie,
toi. Alors, j'augmente les droits de douane sur l'OTAN. Je construis une salle de bal pour les gardiens de la Révolution et je signe un accord de paix avec le pétrole.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris.
Je bombarde l'OTAN, je donne le prix Nobel de la paix au détroit de Hormuz et j'attrape Cuba par la chatte. Voilà. J'ai gagné.
Je comprends pas bien. Gagner quoi? Le régime iranien n'a ni capitulé ni signé d'accord de paix.
Mais non, je m'en fous, là, j'ai gagné au Kaboulox. Je fais n'importe quoi depuis 30 jours. Alors, on refait une partie dès que j'ai attaqué Cuba.
Ça va aller. Merci, Monsieur Trump. Et sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oui. Bonjour, Mathieu. Le prince consort. Consort du placard quand Apolline n'est pas là. Apolline va bien, j'espère.
Oui, très bien.
Non, ne m'envoyez pas de poser la question, mais comme vous avez la nationalité américaine, je me méfie. Ben oui, on les connaît, les ricains, ils sont prêts à tout, que ce soit pour renverser le dirigeant d'un pays ou même l'animatrice d'une matinale. Allez, c'est parti pour les titres. Après avoir attaqué l'Iran pour faire diversion à l'affaire Epstein, Donald Trump, envisage maintenant le contraire, c'est-à-dire révéler de nouvelles pièces du dossier Epstein pour détourner l'attention de la guerre en Iran. C'est plus MAGA, c'est méga. Make Epstein great again. Et puis Donald Trump a annoncé que la guerre en Iran touchait à sa fin car il avait atteint ses objectifs. Il n'a même pas eu besoin de dire poisson d'avril, personne ne l'a cru. L'annonce du retour de Céline Dion pour 10 concerts à Paris a suscité un engouement sans précédent dans le pays. Les Français se reconnaissent tellement en elle. Mais oui, Céline Dion, elle a ce petit côté français. Elle a quand même passé 5 ans en arrêt maladie.
Merci Stéphane. Nous sommes à présent en ligne avec Emmanuel Macron qui est en voyage officiel au Japon. Bonjour Monsieur le Président. Dragon Ball.
81. Oui, je suis un super Saiyan.
Monsieur le Président, vous m'entendez?
Oui, pardon, non, effectivement, je vous ai vu mon Kamehameha avec la Première ministre japonaise. Parce que je connais Dragon Ball sur le bout des doigts, je suis le Son Goku de la politique, le Son Gohan de l'international, le Tortue Génial de l'économie, le Vegeta de la finance. Ben oui, je suis pas con. Dans l'avion pour le Japon, j'ai tapé manga sur Wikipédia, puis j'ai appris les noms par cœur des personnages pour impressionner les Japonais.
Voilà. Alors, des membres de l'opposition ont critiqué votre absence de France alors même que la crise pétrolière touche de plein fouet notre économie.
Oui, non, mais ça, je l'ai réglé avant de partir. Vous avez pas suivi? Avec les concerts Céline Dion à Paris, il y aura plus d'1 milliard de retombées économiques pour la France.
Français sont de plus en plus nombreux à souffrir de la hausse des prix des carburants.
Non mais écoutez, ils sont bien gentils les Français. Ils gueulent pour 10 balles de plus à la pompe et à côté de ça, ils claquent 300 balles pour réserver des places pour Céline Dion. Donc, ils iront à la Défense Arena à pied ou à RER, voyez, ça aussi c'est réglé. Alors laissez-moi kiffer mon séjour au Japon tranquille. Moi, je me suis pas tapé 14 heures de vol loin de la France pour me retrouver à gérer vos petits problèmes.
Bon, très bien, merci monsieur le Président. Et tiens, Ségolène Royal est venue nous rejoindre.
Oui. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Allô, ça va le cocu? Bienvenue au club. Mais oui, Pascal de la Tour du Pin. Elle vous a bien quitté, que je sache. Oui, tous les jours, on faisait un petit 5 à 7 avec elle. Oui. Mais voilà, elle est partie avec un autre Mathieu. Mathieu coach. C'est pas la première fois qu'une femme part avec son coach. On les voit tous les matins, ils ont l'air épanouis, la Pascal de la Tour du Pin. Puis maintenant, avec lui, c'est 7 à 9, hein, c'est carrément la grasse matinée. Hein, oui. D'ailleurs, ils sont passés où les deux autres, Storm et Tenzo, hein? Moi, je les aimais bien, les deux petits tourtereaux. Dites donc, les couples, ça bouge beaucoup sur BFM. Un vrai club échangiste. Hein,
Mais vous veniez juste pour me dire ça, Madame Royal?
Non, mais attendez, on a quand même le droit de popoter. Hein? En plus, j'ai que ça à foutre. En parlant de popoter, vous avez vu le retour de Céline Dion?
Oui.
C'est ça, les grandes stars. Hein, les gens sont impatients de nous revoir sur le devant de la scène. Bah, Céline Dion et moi, on est les mêmes. Hein, 37 ans, c'est un âge où on a encore la vie devant soi.
Mais, Madame Royal, vous êtes dans la même catégorie. De toute façon, vous ne faites pas du tout le même métier.
Mais quoi? Mais si, moi aussi, j'ai des tubes interplanétaires que tout le monde serait ravi de réentendre. Souvenez-vous quand je disais « bravitude hein, », quand je disais « non, Monsieur Sarkozy, je ne me calmerai pas hein, ». Ou des tubes plus intimistes quand je disais « non mais François, t'as vu l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle tu rentres, espèce de bâtard ». Voyez les gens le sourire, les gens se souviennent de mes plus grands succès. Donc moi aussi, je vais faire mon retour.
Mais où ça?
Ben n'importe où, moi. Moi, vous savez, je suis tout terrain. J'ai fait les Deux-Sèvres, ouais. J'ai fait les pôles, que ce soit le Sud, le Nord, j'ai fait l'Algérie. Non, je le dis à mon public, j'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Voilà, oui, voilà. Merci, mon Dieu. Merci Nicolas Canteloup. Face à Canteloup qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment du jour, de la nuit en podcast.